VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal et bienvenue aussi à nos nouveaux auditeurs sur FM à Lubumbashi. Au Burundi, 3 blessés ce lundi matin quand 3 obus ont été tirés sur le centre-ville de Bujumbura, à quelques mètres des bureaux du maire de la capitale. Et ce, après un week-end au cours duquel 3 personnes au moins ont été tuées et leurs corps retrouvés dimanche dans des quartiers du nord et du sud de la capitale. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Sur l'avenue du peuple Murundi, dans le couvent des sœurs Benemukama, des obus de mortier sont tombés faisant 3 personnes blessées, dont une veuve grièvement. Un autre obus de mortier est tombé près des bureaux du maire de la ville, Freddy Mbonima, vers 9h GMT, causant la peur et la panique dans la capitale Bujumbura, qui venait de vivre des jours calmes après la nuit cauchemardesque du vendredi 11 décembre 2015. Mais dimanche, avant midi, un jeune de 29 ans surnommé Lissouba a été assassiné à la 2e avenue du quartier Moussaga, sur une des artères menant à la grande prison de Mbimba, au sud de la capitale. Les témoignages de la population de la localité sont formels. Trésor Pascal Chimirimana a été assassiné par un policier, mais le porte-parole de la police indique que ce jeune criminel voulait fuir par mégarde. Une balle l'a tué et des enquêtes ont débuté. 2 autres corps ont été retrouvés dans les quartiers de Kinama et de Mutakura, alors que tous les regards restent braqués sur la date du 6 janvier prochain pour le début des véritables pourparlers entre opposition et gouvernement. À Arusha, en Tanzanie, les Burundais s'interrogent toujours si le gouvernement sera présent après les déclarations des autorités burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les États-Unis profondément déçus par la décision du président rwandais Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Avec cette décision, le président Kagame rate une occasion historique de renforcer et consolider les institutions démocratiques que le peuple rwandais s'est échiné à bâtir depuis plus de 20 ans, a fait savoir le porte-parole du département d'État américain John Kirby dans un communiqué ce week-end. Nous sommes particulièrement préoccupés par les changements visant à favoriser un individu, a ajouté John Kirby samedi, en appelant le gouvernement rwandais à respecter le droit des citoyens à la liberté d'expression, de conscience et de rassemblement pacifique. Dans un tweet aujourd'hui, le président Paul Kagame a réagi en affirmant, et je cite, « Il y a beaucoup de choses très décevantes qui se passent dans le monde. Nous espérons porter notre propre fardeau et ne pas être un fardeau pour les autres. » Fin de citation. En RCA, les résultats partiels et provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier continuent de tomber au fur et à mesure qu'ils sont traités. Jusqu'à présent, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, n'a publié que 27% des résultats. Des précisions avec Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
Les derniers résultats partiels et provisoires d'hier soir donnent toujours en tête le candidat indépendant numéro 2, Faustin Archange Touadéra, qui a récolté 120 838 voix. Ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra est un gros outsider venu troubler les pronostics. Le candidat numéro 1 de l'URCA, Anissé Georges Doléguilé, garde toujours le second rang avec 68 547 voix. Deux fils d'anciens présidents, Désiré Zanga Bilal Kolimba et Jean-Serge Bokassa, occupent les 3e et 4e place avec respectivement 39 952 et 33 958 voix. Le candidat du MLPC, Martin Ziguele, considéré comme l'une des têtes d'affiche de ce scrutin, occupe pour le moment la 5e position avec 27 381 voix. Seulement 27% de ces résultats sont rendus publics par l'Autorité nationale des élections. Les résultats de certaines préfectures comme l'Ouham, l'Ouampindi, la Waka, la Vakaga et la Basse-Koto ne sont pas encore traités. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant. Au Bénin, Sébastien Ajavon, président du patronat béninois, officiellement candidat au présidentiel du 28 février. Monsieur Ajavon a confirmé sa candidature hier lors d'un meeting dans un stade de Cotonou, la capitale. Sébastien Ajavon, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire et qui possède notamment une chaîne de télévision et une station de radio, est le second homme d'affaires à se porter candidat au scrutin présidentiel du mois prochain, après Patrice Talon, le mania du coton, devenu le principal opposant du président Thomas Boniaï. Le parti présidentiel, le FCBE, a choisi comme porte-étendard le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinzou, l'actuel premier ministre. Présidentielle du 21 février au Niger, 16 dossiers de candidature ont été réceptionnés par le ministère de l'Intérieur à la date limite de dépôt samedi. Le ministère de l'Intérieur doit maintenant les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Ils sont presque tous connus, à quelques exceptions près. Issoufou Mahamadou, le président sortant, Seyni Oumarou, qu'il a battu au second tour en 2011 à Mahamadou, en prison dans le cadre de l'affaire de trafic de bébés, tout comme Abdoulabo de la CDS Rahama. L'ancien président de la République, Maman Ousmane, parrainé par une autre formation politique outre que son CDS traditionnel, et Amadou Bakar Sissé, ministre jusqu'en septembre 2015, sont les plus connus et seront probablement les plus cotés par les électeurs. Quelques jeunes feront aussi partie. Par le 2, il s'agit de Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République, et Maman Kassou Mokhtar, ancien maire de la capitale économique Maradi. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle qui doit statuer avant le 9 janvier pour validation. Dans l'entretemps, le rapport d'audit du fichier électoral commandité par la Commission électorale nationale indépendante auprès de l'OIF sera aussi disponible. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Autre élection prévue en février en Afrique, les présidentielles aux Comores. 25 candidats sur 28 postulants ont été retenus pour participer à ce scrutin. C'est ce qu'a confirmé la Cour constitutionnelle dans un arrêt ce week-end. Les Comoriens de l'étranger, dont environ 300 000 vivent en France, ne pourront finalement pas voter, contrairement à ce qui avait été annoncé par le ministère de l'Intérieur il y a 6 mois. Le premier tour des élections est prévu le 21 février. Seuls les 3 candidats arrivés en tête participeront au second tour le 18 avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran et la violente réaction iranienne à l'exécution d'un dignitaire religieux chiite saoudien par Riyad. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Lors d'une conférence de presse à Riyad, le chef de la diplomatie saoudienne a dit que son pays exigeait le départ sous 48 heures des membres de la représentation diplomatique iranienne. Adel Al-Jubeir a dénoncé, et je cite, « les ingérences négatives et agressives de l'Iran dans les affaires arabes ». Les attaques par des manifestants de l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien à Machad constituent, selon le ministre, une violation flagrante de toutes les conventions internationales. Adel Al-Jubeir a accusé les autorités iraniennes de n'avoir rien fait pour les empêcher. Les relations déjà mauvaises entre l'Iran et l'Arabie saoudite se sont nettement dégradées suite à l'exécution samedi en Arabie saoudite du cheikh chiite saoudien Nimir Bakr el-Nimir, un critique virulent du gouvernement de Riyad. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont dit craindre que cette exécution n'enflamme davantage les tensions entre les communautés chiites et sunnites.
Réaction à la brouille entre Riyad et Téhéran, le Soudan et Bahreïn ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Les Émirats arabes unis, eux, ont rappelé leur ambassadeur à Téhéran, mais sans aller plus loin pour le moment. La Mauritanie, pour sa part, a dénoncé aujourd'hui ce qu'elle a appelé les actes de vandalisme contre les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères à Nouakchott. La France, pour sa part, appelle à une désescalade entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et la Russie a offert ses bons offices pour essayer de résoudre la crise entre les deux grands rivaux de la région du Golfe. Au Yémen, voisin, un couvre-feu nocturne a été décrété à partir de ce lundi à Aden, deuxième ville du pays. L'annonce fait suite à de violents combats dimanche dans un des ports d'Aden, Al-Mouala. Des combats qui ont fait 17 morts, 9 membres des forces de sécurité dont un colonel et 8 assaillants, selon des sources sécuritaires. Depuis mars, la guerre au Yémen a fait quelque 6 000 morts, 28 000 blessés et 2,5 millions de déplacés. Et pour terminer, un an après, l'assassin court toujours. C'est le titre du numéro spécial de Charlie Hebdo qui paraît ce mercredi. Pour le premier anniversaire de l'attentat djihadiste qui avait décimé son équipe, l'hebdomadaire satirique français met en une un dieu barbu armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté. Selon l'AFP, ce numéro doit être tiré à environ 1 million d'exemplaires, dont des dizaines de milliers seront expédiés à l'étranger. Rappelons que 12 personnes avaient perdu la vie dans l'attaque par des djihadistes de l'hebdomadaire à l'irrévérence assumée en tournante vers les religions qui avaient publié des caricatures du prophète Mohammed. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.